Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Aujourd'hui, encore une fois, je vous propose de commencer l'émission avec un petit extrait de ce balado, le tout nouveau balado de Devine qui vient souper, qui est devenu maintenant Devine qui vient luncher, où on a partagé un petit repas de poulet avec l'animateur et comédien Jasmin Roy et la chanteuse et comédienne Ima, qui nous a raconté un moment très troublant de son enfance.
Moi, j'ai eu de l'abus de très jeune, de 3 à 5 ans par mon gardien, puis avec des thérapies, de la PNL, toutes sortes de façons de faire que je cherchais pour guérir, mm-hmm. parce que longtemps, ça m'a suivi dans mes relations, dans une sorte d'anxiété. Je faisais des crises de panique.
Ah oui, c'était relié à ça.
On t'a raconté que tu étais victime,
non,
parce que moi, je me souviens pas.
Je m'en suis rappelée à 18 ans, ma fête de 18 ans. J'ai rêvé, c'était vraiment flyé parce que jusqu'à mes 18 ans, j'avais aucun souvenir. Puis à mes 18 ans, je me suis réveillée le matin, puis j'ai dit à ma mère, « Maman, Monsieur Paquette, il m'abusait quand j'étais enfant. » Puis je lui ai tout raconté. Puis ma mère, elle s'est mise à pleurer parce que quand j'étais à cet âge-là, justement, je disais des trucs bizarres. Puis elle travaillait, puis tu sais, c'est une autre
elle était moins
génération,
présente,
c'est une autre façon de penser. Puis elle m'a sortie de là quand elle a commencé à trouver ça bizarre. Puis, mais moi, je parlais pas beaucoup. Fait que je disais que faisait des choses, mais tu sais, ma mère, elle a comme...
Elle se sentait coupable?
Ah, complètement. Même encore.
Pauvre elle. Ah ouais. Oui, encore ouais. Aujourd'hui.
Quelle histoire. Refouler comme ça un souvenir dont vous allez pouvoir entendre la totalité du témoignage de la chanteuse et comédienne Ima en vous rendant dans la section balado de Cube Radio. Quand vous allez écouter son témoignage, vous allez sûrement pousser un très triste.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Ben voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Je suis abonnée à différents comptes de différentes institutions sur Facebook et sur Twitter. Et je suis entre autres abonnée à l'Université McGill puisque c'est mon alma mater, une de mes deux alma mater. Et je vois passer au cours des 24 dernières heures une annonce pour un poste de professeur pour venir enseigner à l'Université McGill racisme systémique et santé. Alors, je regarde la description de tâche et je suis quand même assez surprise. La question n'est même pas de savoir est-ce qu'il y a ou pas du racisme systémique. La question, c'est d'enseigner les liens entre le racisme systémique et la santé. Alors, j'écris à mon ami et collègue Joseph Facal qui me répond « Mais Sophie, il n'y a rien de surprenant à tout ça, c'est tout à fait courant. » Alors, on va en parler avec lui, il est blogueur, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Joseph Facal, bonjour.
Bonjour Sophie.
Donc, un poste universitaire pour enseigner un cours racisme systémique et santé, c'est chose courante maintenant dans les universités.
Mais oui, ça fait des années que ça dure, bien que là, évidemment, le phénomène prenne de l'ampleur. En fait, j'en vois passer plein de ce type équipes d'affichage, des collègues m'en envoient. On rigole entre nous. En fait, on rit jaune un peu, parce qu'évidemment, on se dit, dorénavant, les jeunes qui aspirent à une carrière universitaire devront faire génuflexion devant ce genre de pseudo-science, mais c'est véritablement devenu extrêmement courant. Il y a là d'ailleurs un danger, qui est que c'est devenu tellement banal qu'on pourrait trouver que c'est la nouvelle normalité. En fait, l'aberration devient normale dans le monde universitaire. Si je peux me permettre, Sophie, il y a quelques semaines, j'avais commis une chronique dans le journal où je disais à nos lecteurs, vous auriez tort de penser que seulement les sciences humaines ou les études littéraires sont touchées par ça. Cela débarque aussi dans les sciences dites exactes. Et j'avais cité le cas de trois chercheurs de l'Université Concordia qui, eux, avaient reçu en 2019 163 000 $ d'un organisme fédéral pour décoloniser la physique. Qui était jugée trop blanche, trop pleine de préjugés coloniaux. Et j'ai retrouvé, pour les besoins de notre petite conversation, une citation où l'une des trois boursières disait, et je cite, « We are finally gaining momentum in elevating indigenous knowledges as equally valid to Western science. » Autrement dit, pour elle, le savoir en matière de physique est occidental. Newton, Galilée, Einstein, tout ça, ce sont juste des vieux mâles blancs. Et le savoir autochtone est également valide dans ce domaine. On ne parle pas ici de spiritualité, on ne parle pas d'expression artistique, on ne parle pas de gouvernance locale, on parle de physique. Et je pourrais aussi, par exemple, longuement te parler de ce qui se passe maintenant aux États-Unis dans l'enseignement des mathématiques, où on nous dit que les mathématiques traditionnelles sont porteuses de suprémacisme blanc. En quoi? Par exemple, en insistant sur la bonne réponse, ou en insistant sur le fait que Pitou doit corriger les erreurs qu'il a faites dans l'équation. Alors, on est véritablement en train maintenant de s'en prendre... on est au-delà, si tu veux, des gender studies, puis des black studies, puis tout ça, là. On s'en prend maintenant aux sciences dites pures.
Oui. Alors, je veux juste lire le reste de la description du poste. C'est quand même, donc, le département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail qui sollicite les candidatures de personnes possédant une expertise de recherche en épidémiologie des inégalités raciales. Une expertise de recherche en épidémiologie des inégalités raciales. Et un petit peu plus loin dans la description, on dit « Le racisme systémique en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde nuit à la santé à travers les nombreuses expositions physiques, sociales et économiques négatives qui s'accumulent tout au long de la vie. Des recherches concrètes pour lutter contre ces inégalités systémiques auront un impact considérable sur la santé publique, etc., etc. » on souhaite à l'université renforcer notre expertise en matière de racisme systémique. On souhaite renforcer notre expertise en matière de racisme systémique. En tout cas, écoute, je lis ça, là, émanant donc du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé, et je me dis, ben, comment les étudiants qui vont aller étudier là peuvent, après ça, avec leur libre arbitre, décider si, oui ou non, il existe du racisme systémique au Québec, au Canada et dans le monde. On leur donne la réponse. On leur dit, il n'y a pas deux façons de voir les choses. Il n'y a pas de débat à y avoir. Il n'y a pas de discussion. Voici la réalité. Ceci est mon corps. Prenez et mangez-en tous.
Voilà, exactement, tu viens de le dire. Dans les idéologies, il y a toujours une dimension religieuse. Le dogme, par définition, c'est tu crois ou meurs. Cela dit, ce qu'il faut voir en dessous de ça, c'est que derrière ce qui apparaît en fait comme un combat, si tu veux, également vertueux et absurde, il faut aussi bien voir la monumentale hypocrisie. Qui est que, là-dedans, des gens ont vu, en fait, un filon payant. Il y a là des occasions d'affaires, tu comprends? Tu peux bâtir une carrière universitaire sur ces niaiseries. Tu peux obtenir des bourses pour financer tes recherches sur ces absurdités, pour ne rien dire, par exemple, de tous ces gens qui, s'improvisant experts en la matière, donne maintenant des séances de formation obligatoires aux fonctionnaires, dans les universités, dans les cégeps. Alors évidemment, moi, personnellement, j'imagine que quand quelqu'un de 40 ou de 50 ans est soumis à ce genre de niaiserie, un peu, il va rire sous cap. Mais, comme tu l'as souligné, quand tout ceci est enfoncé année après année après année à des jeunes, souvent en partant de l'école primaire, ben là, on a affaire à véritablement un lavage de cerveau qui fera en sorte que, quand ces jeunes arriveront à l'université, probablement qu'ils ne mettront même plus en question ce dogme. Ils l'auront ingurgité. Ils auront avalé, si tu veux, l'appât, l'hameçon, la ligne et la canne.
Et ils vont donc faire partie de cette idéologie qui dit « crois ou meurs », c'est-à-dire que le simple fait, et ça c'est une chose dont tu parles et dont Mathieu Bock-Côté parle régulièrement, le simple fait de se questionner, et Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait de façon exemplaire l'autre jour à Tout le monde en parle, c'est que c'est rendu tellement une vérité que le simple fait de se questionner sur ce racisme systémique t'attire des accusations de raciste. Si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il y ait du racisme systémique, t'es raciste. Donc, est-ce que c'est ça qu'on prépare à l'Université McGill? C'est complètement hallucinant. Moi, je trouve ça absolument...
Mais Sophie, il n'y a pas que McGill. Au début, on pouvait avoir le sentiment d'une sorte de clivage entre les universités anglophones et francophones. Et il est vrai que jusqu'à un certain point, les universités francophones résistent encore un peu. Mais si tu examines attentivement, on voit à l'UQAM, à l'Université de Montréal, ce genre d'approche en train de se répandre. Et ce que beaucoup de gens ne notent pas, d'ailleurs, c'est la monumentale contradiction qu'il y a au cœur de cela, et la contradiction, la voici, c'est que, par exemple, on s'en prend aux récits historiques, on s'en prend à la physique, on s'en prend aux maths, on s'en prend à la littérature parce que l'écrivain est un vieux mâle blanc, et l'idée derrière ça, c'est qu'évidemment, la vérité objective, le savoir universel n'existe pas. Ce qu'on nous présente comme culture universelle, c'est en fait un pouvoir blanc, mâle, occidental, colonial, et donc on peut le déconstruire. Il n'y a pas de vérité absolue, tout n'est que relatif. Mais en même temps, si tu dis à ces propres gens-là, « Ah, ben votre propre idéologie, pourquoi elle serait une vérité? Pourquoi je ne pourrais pas, moi, la déconstruire? Ah, ben là, c'est dangereux pour ta carrière. » Autrement dit, leur vérité est absolue, la vérité des autres n'est que relative et peut être déconstruite.
Ouais. Alors, je veux absolument qu'on parle de ta chronique ce matin. Tu y as fait un petit peu allusion. J'avoue que ton titre est assez accrocheur. La gauche se suicide sous nos yeux. Et je vois que c'est un texte qui est très, très, très populaire sur le site du journal. Et tu cites plusieurs exemples à l'appui de ton affirmation quand même assez percutante. Et entre autres, tu fais référence donc à ce texte de Richard qui lui-même faisait référence à un texte du Toronto Sun. Bref, cette formation obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux où on leur enseigne que l'objectivité est un exemple de suprématie blanche. Et je veux juste attirer ton attention sur quelque chose. Donc, Richard a écrit cette chronique-là où il parlait du lavage de cerveau imposé aux fonctionnaires et il a mis une capture d'écran de cette formation que les gens sont obligés de suivre. Et même Richard n'avait pas vraiment vu. Donc, j'invite les gens à retourner voir sur le site du journal. On met « Parcours d'apprentissage dans le cadre de la lutte contre le racisme ». Il y a deux individus, il y a une femme et un homme. Et la femme, elle porte le hijab. Donc, dans la tête de ces gens-là, un homme, c'est un homme, lui, il n'y a pas de caractéristiques parce que les hommes, c'est juste des hommes. Et la femme porte un voile. On est en train de dire l'idéal féminin ou le modèle féminin, c'est quelqu'un qui porte un voile. Donc, soit c'est le message qu'on envoie, soit le message qu'on envoie, c'est systématiquement les femmes qui portent le voile sont victimes de discrimination et de racisme. En plus, c'est un non-sens parce que le racisme n'a rien à voir avec le voile. Le voile, c'est pas une question de race. Bref, c'est décourageant, cette formation-là.
Voilà, et tu vois en même temps l'immense embarras de beaucoup de nos féministes locales qui ne savent plus trop sur quel pied danser, tu vois. Non, écoute, c'est complètement aberrant, mais en même temps, cette aberration est en train de devenir un peu l'air du temps, la nouvelle normalité, et donc conséquemment, il faut pas s'étonner, Sophie, que, comme je le mentionne ce matin, on commence à avoir des données qui montrent que il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui s'identifient à la gauche, parce que, et Richard a beaucoup écrit là-dessus, on vit en ce moment une mutation qui commence à prendre des allures de guerre civile à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans l'école pour tous, l'hôpital pour tous, le droit de se syndiquer, les programmes sociaux, la redistribution des richesses. On n'est plus vraiment dans la gauche classique. On est vraiment dans cet agenda militant woke. Et moi, que veux-tu, Sophie? Je m'accroche à l'idée que le bon sens n'a pas encore déserté une majorité silencieuse, de moins en moins silencieuse, qui commence à en avoir jusque-là. Ma véritable crainte, évidemment, c'est quand ce lavage de cerveau débarque à l'école primaire et secondaire et s'installe pour les 11 années. Je suis convaincu, tu vois, que si tu examines, par exemple, l'opinion de nos étudiants, par exemple de cégep, qui ont traversé le cours ECR, ils sont probablement à l'unanimité convaincus que la loi 21 est profondément raciste, tu vois? Alors, je crois que nous, si tu es les adultes, on a encore des anticorps pour lutter contre ces niaiseries.
on a un bon système immunitaire.
Voilà, il y a de l'immunologie idéologique qui marche encore. Mais chez les jeunes, soumis à ce matraquage, ça va donner quoi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans?
Oui, excellente question. Et parlant de la loi 21, justement, et de cette attitude envers la loi 21, écoute, le NPD, bon, évidemment, à la dernière minute, ils ont retiré ça des résolutions qui devaient être discutées lors de leur congrès qui avait lieu en fin de semaine passée. Mais dans les premiers jets, dans les premiers brouillons, si tu veux, des résolutions, il y avait une résolution complètement hallucinante concernant la loi 21 sur la laïcité, qui proposait que le NPD non seulement la dénonce, mais s'y oppose, qui faisait un lien dans le préambule, attendu que le NPD s'est toujours opposé au suprémacisme blanc, comme on en a fait la preuve pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on s'est opposé à l'internement des ressortissants japonais. Donc, on faisait un lien clair entre la loi 21, des camps d'internement, des citoyens canadiens qui ont été privés de leurs droits, qui on a confisqué leurs entreprises, et le suprémacisme blanc et la loi 21. C'est quand même ça, c'est puant de la part du NPD. En tout cas.
Et dire que le NPD avait pris pied au Québec et avait une occasion historique de devenir véritablement un parti avec des racines partout. Là, vraiment, il n'y a pas plus belle façon de dire on est en train de faire une croix sur le Québec. Hey Sophie, pendant que nous sommes là, est-ce que tu me donnes 45 secondes pour faire un petit coq à l'âne? Alors, juste pour te raconter, samedi dernier, les enfants m'invitent au Musée des Beaux-Arts pour aller voir Jean-Paul Riopel.
Ah, c'est magnifique. Ouais.
C'est magnifique. C'est un immense hommage de notre plus grand peintre à l'art autochtone. D'ailleurs, en passant, pour la sécurité au Musée des Beaux-Arts, j'ai été très impressionné. Bon, nombre de gens contrôlés, masques et tout, mais enfin, peu importe. Il reste que Riopel, donc, s'inspire de l'art autochtone et tout au long des salles, je me demandais comment ils vont nous faire le coup de l'appropriation culturelle. Mais et on était rendu vers la fin et là, je suis tombé sur le panneau explicatif que j'attendais, où on nous explique évidemment que dans son temps, Hein? Riopel faisait de l'appropriation une sorte de stratégie de dialogue, mais qu'aujourd'hui, évidemment, en 2021, ce serait éminemment discutable. Alors, je me disais, à quel moment ils vont nous mettre la petite capsule de wokisme dans cette exposition par ailleurs extraordinaire? Ne désespérez pas, elle arrive à la toute fin, la petite morale, le petit catéchisme, il était là.
Oui, ben surtout qu'on connaît les orientations que le musée est en train de prendre, c'est assez clair. Mais je te dirais pour conclure quand même que cette exposition, pour moi, était quand même m'a ouvert les yeux. Écoute, il y a un moment donné, il y a une vitrine où il y a toutes sortes de masques autochtones avec en bois, avec des têtes d'animaux, d'oiseaux. Et je regardais dans cette salle-là, il y avait à ma droite des riopelles, à ma gauche des masques autochtones. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ce chef-d'œuvre devant lequel je suis, le nom de l'artiste qui a fait ça n'est pas connu. Et pourtant, le nom de Riopel est sur toutes les lèvres. Or, en termes de chef-d'œuvre, ce que j'ai devant moi est aussi important que l'œuvre de Riopel. Et donc, je trouve que ça provoque quand même une réflexion extrêmement importante. Écoute, Joseph, on va se quitter là-dessus. Donc, on encourage tout le monde à aller voir l'exposition.
Ah oui,
ceux qui le peuvent, en tout cas, ceux qui peuvent se déplacer. Parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer d'une zone à l'autre. Merci beaucoup, Joseph.
Merci.
Et puis, j'ai déjà hâte à notre prochaine discussion de jeudi. Merci.
Moi aussi. Au revoir.
Joseph Facal, qui est chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
On a tous vu les images des saccages, du grabuge, mais c'est vraiment un euphémisme, qui a eu lieu en fin de semaine dans le vieux Montréal, des vitrines de restaurants, de commerces saccagées. Alors imaginez quand vous voyez ces images-là et que c'est pas juste un commerce, mais c'est votre commerce qui a été saccagé. C'est ce qui est arrivé en tout cas à Elena Loreiro. Elle est propriétaire du restaurant qui porte son nom dans le vieux Montréal, qui a été victime de saccage. Madame Loreiro, bonjour.
Bonjour Madame Durocher.
Écoutez, je connais votre restaurant, beaucoup de gens apprécient la cuisine que vous faites, que ce soit au Elena, que ce soit au Portus 360, que ce soit dans vos différentes interventions dans les médias. Donc, racontez-nous ce qui s'est passé et comment vous avez appris, comment vous êtes rendu compte que votre restaurant dans le Vieux avait été saccagé.
Mais merci beaucoup pour ces beaux mots, ça nous fait vraiment chaud au cœur à ce moment ici. C'est dimanche soir, j'ai reçu un appel, j'étais à la maison et j'ai reçu un appel avec une photo d'un client que c'est une amie qui habite juste à côté d'où Elena et m'a envoyé une belle photo avec ma vitrine cassée. Et effectivement, je me suis rendue sur place tout de suite. Il y en avait encore beaucoup de gravures, beaucoup de monde et c'était vraiment le gros party.
Oui. Et en plus, dimanche soir, c'était le début du couvre-feu, donc vous vouliez aller protéger votre commerce. En même temps, c'était pas évident parce qu'il y avait un couvre-feu à respecter. Qu'est-ce que vous avez pu faire une fois que vous êtes arrivé sur place et que vous avez constaté les dégâts?
Ben, en effet, on a hésité parce que je me posais la question. J'ai envoyé mon garçon avant parce que Daniel, il travaillait à RDS, il finissait son quart de travail. Et je l'ai dit de passer voir vraiment qu'est-ce qui se passait parce que je venais d'avoir la photo. Mais j'étais trop énervée, trop triste pour l'événement et j'ai décidé de partir de la maison. Et c'est là quand je suis vraiment arrivée, on a pris la mesure d'appeler sous le moment où on savait même pas quoi faire. Il faut que tu réfléchis pendant 2 secondes, voir que c'est quoi la mesure à prendre. C'est là que j'ai appelé le propriétaire de la bâtisse et mon voisin à côté que c'est le même propriétaire c'est le clousier, les vêtements pour hommes. Tout était cassé aussi. Alors, le propriétaire, il s'est rendu très vite avec son équipe. Ils ont placardé nos fenêtres, en effet. Mais il y avait beaucoup de mouvements encore. Évidemment, ils ont posé la question parce que le couvre-feu était pour 8 heures. On était vraiment énervés de partir de chez moi à 8 heures quand il y avait, pas à 8 heures, j'ai parti de chez moi, c'est comme 9 heures, 9h05 à peu près, 21h05 du soir. Et c'était un gros stress d'arriver chez moi et voir qu'il avait cassé ma fenêtre et j'ai une grosse roche en plein milieu de mon restaurant. J'avais la couverture de la poubelle en face qui s'est ramassée, ben, ils ont ramassé, l'envoyé à travers ma fenêtre. C'est sûr que c'est triste qu'on n'avait pas besoin de vivre ça à ce moment-là, que déjà qu'on avait tout ce qu'on passe. Je pense qu'on méritait pas ça et c'est un petit peu un message contradictoire que ces petits jeunes voyeux envoyaient que au fond, dans la rue, qu'est-ce que j'entendais crier, c'est ouvrir les restaurants, ouvrir les bars, mais ils étaient tout en train de nous casser les portes et les fenêtres, alors je sais pas c'est quoi ce message-là.
C'est un petit peu contradictoire de dire « ouvrez les restaurants », mais en fait, vos restaurants sont fermés et en lançant des poubelles et en lançant des roches dans vos vitrines, ils font juste vous mettre des bâtons dans les roues.
C'est vraiment ça. C'était très, très, très difficile pour nous. Sérieusement, c'est vraiment un message contradictoire. Et c'est comme j'ai dit, on regardait ces jeunes-là, c'était la plupart, c'était des mineurs. C'est vraiment triste. Je me demande si le premier ministre avait pris la décision de fermer les écoles, s'il aurait réagi de la même façon.
Ah, bonne question. Très bonne question. Oui.
C'est vraiment malheureux de dire ça et c'est vraiment triste, mais c'est comme ça que je me sens et je me sens vraiment attaquée, je me sens très fâchée parce que je pense qu'on devrait faire tous notre part, on devrait être solidaires et on devrait se donner la main parce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'avec le système de vaccination, ça se passe très, très bien et je pense qu'on achève, qu'on pourrait ouvrir bientôt, que la ville de Montréal est en train de nous faciliter quand même la vie pour se faire des permis de terrasse. Je pense qu'on pourrait quand même ensemble arriver très bientôt à avoir un été un petit peu plus joyeux. Et c'est pas comme ça qu'on va arriver. Déjà qu'on est tellement dans le rouge, je pense que c'est vraiment la cerise sur notre gâteau qui nous manquait à ce moment-là.
C'est bien dit. Et évidemment, comme chef, Elena, vous utilisez une métaphore de de gâteau. Mais pour rester dans les métaphores, la pilule a été plutôt difficile à digérer depuis un an. Ferme, ouvre, ferme, ouvre. Vous dites que vous êtes déjà dans le rouge. Comment vous avez réussi depuis un an, depuis le début de la pandémie, à survivre financièrement, Madame Loureiro?
Ben, très difficilement, comme tout le monde. C'est parce que si on a de l'aide gouvernementale du gouvernement fédéral, parce que ce serait pas ça, on n'arriverait jamais et c'est impossible. Il n'y en a aucun commerce qui serait capable de vivre si on n'aurait pas de l'aide financière pour les salaires et pour les loyers, mais surtout pour les loyers. J'ai continué à faire le take-out parce que je voulais absolument garder au moins mes sous-chefs, mes cadres les plus proches de moi. Avant de la fermeture du début, j'en avais 143 employés. Alors, à ce moment ici, j'ai gardé 4 avec moi. Alors, c'est tout ça.
Attendez 2 secondes. Vous êtes passé de 140 à 4 employés. Vous avez mis à la porte 136 personnes.
143 employés qu'on avait et j'ai 4 présentement qui travaillent parce que je fais du TK. C'est ça ma réalité. Effectivement, qu'on se pose beaucoup de questions pour la réouverture, comment on va réouvrir. Et ma grosse crainte et mon inquiétude, ça serait même pas les 2-3 prochains mois quand on va nous laisser ouvrir. C'est par après comment on va se passer. C'est le moment que le gouvernement il nous lâche, qu'il il nous donne plus la main, nous tient plus la main. On va tous à la dérive. Il y a ceux qui vont couler, il y a ceux qui vont continuer à survivre. Mais moi, je me pose beaucoup de questions comment on va s'en sortir. C'est l'avenir que c'est compliqué. Et tous ces employés-là, ils avaient des obligations, ils avaient des familles, ils avaient des loyers, ils avaient des hypothèques, et que beaucoup d'autres, ils sont dirigés vers d'autres métiers, faire d'autres choses pour payer leurs obligations. Et je me demande où est-ce qu'on va aller chercher le staff. Ces gens-là, ils ont tout un autre mode de vie présentement.
C'est ça, ils ont choisi de se réorienter ou de faire un autre métier. Est-ce que ça va leur tenter déjà de revenir travailler en restauration, ne sachant même pas si ils vont occuper cet emploi-là pour deux semaines ou pour deux ans? Ça va être en effet extrêmement difficile à gérer. Je veux juste qu'on revienne un petit peu, vous avez parlé tout à l'heure des terrasses. C'est vrai que la Ville de Montréal a dit que les permis pour les terrasses allaient coûter beaucoup moins cher, donc pour vous aider. Mais en même temps, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En Ontario, jusqu'à tout récemment, on permettait l'ouverture des terrasses pour que les restaurants puissent respirer un petit peu. Ça n'a jamais été le cas au Québec. Donc, est-ce que vous voyez à court terme que le gouvernement, la santé publique permette l'ouverture des terrasses?
C'est une question qu'on se pose. Moi, j'ai commencé mes démarches pour faire le... Ben, je commençais avec un architecte premièrement que ça me coûte déjà 3 000 $ en partant, même si je ne sais même pas si mon permis va être accepté ou pas. Mais il faut comprendre le risque parce que si on prend pas de risque, on n'avancerait jamais à rien. Mais le permis présentement de la Ville de Montréal, c'est 55 $. Alors, c'est vraiment rien à comparer à un permis normal. Déjà là, c'est très bien. Mais là, s'il va être accepté ou pas, c'est une autre question qu'on se pose. C'est sûr que moi, je ne suis vraiment pas pour l'objectif d'ouvrir des terrasses. On a une salle à manger fermée. Ça ne nous apporte pas grand-chose non plus. C'est tout un enjeu qu'on va passer à travers, qu'on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Une autre question qu'on se demande beaucoup, c'est que la vie, elle a changé. Et pour garder nos employés sur place et pour qu'ils soient motivés à venir travailler, faut qu'il y ait une acquittation salariale qui se passe, que les pouvoirs... ça, c'était un autre enjeu qu'on travaille beaucoup avec le gouvernement, voir s'il y en aurait une facilité de faire les salaires équitables pour qu'elle rende le travail de la restauration plus attrayant, que les gens aient le goût de venir travailler en restauration et qu'ils soient payés et rémunérés comme ça devrait l'être, que le split de pouvoir soit équitable avec tout le staff du restaurant et pas juste vraiment avec le serveur comme il est présentement. Avec les normes qu'on a présentement, le pouvoir, c'est avec le serveur et nous, on aimerait beaucoup que cet enjeu-là, il change pour que nos cuisiniers aient le goût de revenir dans nos cuisines et rendre la gastronomie comme si elle était toujours à Montréal. C'est une ville métropole qui était la plus multiculturelle que je connais au monde, qu'on pourrait faire un voyage à travers du monde à Montréal au niveau de la gastronomie. Je trouve qu'elle n'est pas si, elle n'est pas mise assez en valeur à Montréal et qu'on a de la misère à trouver des cuisiniers et des chefs. Par contre, les THQ, ils forment au moins 1 200 par année. Des chefs qui sortent de la THQ et où est-ce qu'ils s'en vont, ces jeunes-là, dans le marché du travail? Il y a à peu près 4 à 5 % qui restent dans l'industrie. Ça, c'est, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Oui, c'est un très bon point que vous soulevez. Vous avez tout à fait raison. Et corrigez-moi si je me trompe, mais vous-même, vous avez fréquenté. Donc, l'ITHQ, vous connaissez bien l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Vous connaissez bien la question. Oui. Alors, juste une question. Vous avez soulevé quelque chose et je suis très curieuse parce que c'est évidemment, je suis pas restauratrice, donc je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi vous nous dites que le simple fait d'ouvrir les terrasses n'est pas suffisant si la salle à manger n'est pas ouverte? Ça n'est pas intéressant pour vous au point de vue financier d'ouvrir la terrasse si la salle à manger reste fermée?
Non, effectivement, ça serait pas intéressant. Ça serait une petite fraîcheur, mais ça serait pas assez pour nous, évidemment que non.
D'accord.
Parce que même si j'aurais un permis de terrasse, je pourrais asseoir peut-être 12-15 personnes maximum sur ma terrasse.
À cause de la distanciation. Ouais.
Exactement. Mais par contre, ça me prend un minimum d'employés pour opérer ça. Alors, ces minimums d'employés-là, je pourrais faire une autre vingtaine de clients dans la masse à la manger au même temps. Pour le même staff. Oui.
Je veux juste revenir sur les événements de la fin de semaine. Donc, vous nous dites, c'est le propriétaire de la bâtisse, donc, qui est venu, qui a placardé. Est-ce que vos assurances vont vous protéger ou est-ce que vous allez devoir vous payer de votre poche pour un certain nombre de travaux ou de nettoyage ou de est-ce qu'il va y avoir des conséquences financières pour vous après le grabuge et le saccage qui a eu lieu en fin de semaine?
Mais évidemment qu'il va avoir des dépenses en arrière de tout ça. C'est sûr que les assurances ils vont payer, mais nous déjà là on a la franchise à payer. c'est sûr que ça va nous augmenter les assurances. Et une vitrine comme la mienne, qui a 16 pieds de haut et c'est en vitre double, ça serait pas une affaire de 2-3 000 $. On parle d'une couple de 1 000 $, c'est sûr et certain.
C'est décourageant. Écoutez, je veux juste citer votre fils qui a mis sur Facebook un message vraiment très troublant en disant « Bon, ce soir, des petits voyous ont joué au petit comique. » Et il dit « Ce soir, avec les larmes aux yeux, je publie cette photo envoyée par des amis. Je pleure de désespoir d'être écœuré. »
C'est vrai qu'on pleurait tous les deux. On pleurait tous les deux. Et quand je suis arrivée, il était déjà là parce qu'il venait de finir son quart de travail. Et il m'a pris dans les bras et on pleurait tous les deux. Il dit, maman, faut que tu t'en pleures pas, tu vas t'en sortir, t'es forte. Mais c'est vrai que la première réaction qu'on a eue, on pleurait tous les deux. C'était dur, oui. Parce que c'est pas nécessaire de faire ça. Pourquoi que nous, on mérite ça présentement? Je pense qu'il devrait être un petit peu plus adulte et de pas faire une chose comme ça. Parce que moi, je trouve que les gens, ils ont le droit de manifester. Et j'ai rien contre ça. C'est la casse qu'ils ont faite, c'est le vandalisme qu'ils ont fait, c'est le manque de respect.
Comment on peut faire pour vous aider, pour vous redonner espoir, Elena, à vous et à tous les gens dans le monde de la restauration qui, en plus de vivre une année excessivement difficile, voient cette tuile à leur tomber dessus? Comment on peut vous aider?
Premièrement, je demande à tout le monde de rester chez eux, de faire respecter les normes de la mesure sanitaire et respecter ça et respecter les lois qui nous imposent parce qu'il faut s'en sortir de cette, je m'excuse de dire ce mot-là, de cette saloperie de virus-là qui nous affecte depuis un an. On a besoin de se libérer de ça. Le système de vaccination, il va très, très bien. Alors, on va attendre au mois de juin, on va attendre au mois de mai qu'ils nous laissent ouvrir nos restaurants quand au moins 80 % des gens de la population ils vont être vaccinés. Et j'espère que tout le monde reste à la maison et que tout le monde respecte les normes sanitaires pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble de cette maladie-là qui nous affecte depuis longtemps. Ça, c'est la première de mes demandes. Restez solidaires avec nous. Aidez-nous à s'en sortir de ça. La deuxième chose, c'est quand on va ouvrir, on vous attend tous. On serait très contents de recevoir les Montréalais, les gens d'ici, parce qu'on n'a pas de touristes. Vous savez très bien que le tourisme Montréal, il fait sa part aussi, mais c'est très difficile pour les prochains mois. Mais il faut faire les démarches pour que le tourisme vienne à notre ville. Il faut rendre notre ville. Faut pas faire le bordel à Montréal. Faut rendre notre ville comme elle était et avoir le calme à Montréal et avoir la plus belle ville dans l'Amérique du Nord comme on a toujours eu. Et venir chez nous et venir manger dans mon restaurant et dans toutes les autres. C'est ça qu'il faut faire.
Madame Loureiro, je sais pas comment on dit bon courage en portugais, mais je sais comment on dit merci. Alors, obrigado. Et bon courage pour la suite des choses. Et merci d'être venu partager votre témoignage aujourd'hui avec les auditeurs, les auditrices de Cube Radio. C'est très apprécié. Écoutez, vous avez pleuré dimanche. On espère que bientôt, on va pouvoir tous rire ensemble autour d'un bon verre de vino verde.
Exactement.
Et puis manger des pieuvres et célébrer la vie et la santé.
Oui, et vive la vie. Merci beaucoup. Merci de me donner cette opportunité-là de m'exprimer. Même avec mon accent, j'espère que tout le monde y a souri un petit peu avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Bon, on a très bien compris, puis vous parlez français avec un accent qui est absolument charmant, puis de toute façon, qui serais-je pour vous critiquer votre accent? J'en ai un moi-même,
exactement.
Et c'est ça qui fait le charme de Montréal. Merci.
C'est ça la beauté de Montréal. Merci beaucoup. Au revoir.
Et la beauté du Québec. Merci beaucoup, Madame Loureiro. Donc, Elena Loureiro, qui est propriétaire, entre autres, du restaurant Elena, qui porte son nom, donc, dans le Vieux-Montréal, qui a été victime des petits crétins, hein? Des petits crétins vraiment minables qui s'en sont pris donc à différents commerces dans le Vieux-Montréal en fin de semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Le mot qu'on entend le plus depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est vaccin, 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 parce qu'on sait que c'est ça notre porte de sortie de cet enfer du coronavirus. Et bien sûr, tous les regards sont tournés vers la compagnie Medicago, une compagnie québécoise qui fait des essais cliniques sur un vaccin bien de chez nous. On va prendre des nouvelles de ce candidat vaccin en parlant au docteur Brian Ward. Il est officier médical, justement, chez Medicago. Il est aussi professeur en maladies infectieuses à l'Université McGill. Dr. Ward, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va à Medicago pour l'avancement du vaccin? On est tous, bien entendu, très contents qu'il y ait des vaccins qui nous viennent d'un petit peu partout, mais on a bien sûr très hâte qu'il y ait un vaccin de chez nous. Alors, on en est rendu où chez Medicago?
Ben, c'est quelque chose que nous espérons, nous aussi. ça va très bien. Nous venons de dépasser notre phase 2 et nous avons lancé notre phase 3. Dans plusieurs pays et les autres pays jusqu'à 11 seront ouverts dans les prochaines, disons, 2-3 semaines.
Donc, 11 pays à travers le monde où on va tester sur des nouvelles clientèles, entre guillemets, le fameux vaccin Medicago. Pourquoi est-ce qu'on va dans autant de pays différents pour tester un vaccin, Dr. Ward? Juste pour nous l'expliquer, parce que nous, on est des néophytes hein, en développement de vaccins. Donc, expliquez-nous pourquoi il faut aller dans autant de pays.
Mais c'est très important maintenant d'avoir... un recrutement dans les populations qui seront une bonne réflexion de la population. À ce moment, en Amérique du Nord, par exemple, et en Angleterre, la vaste majorité des gens âgés ou les gens avec les conditions médicales, ils sont déjà vaccinés. Mm-hmm. Alors, c'est impossible de recruter ces gens âgés ou avec les comorbidités, on dit, pour une étude de l'efficacité. Et en plus, avec la disponibilité d'autres vaccins, ce n'est plus éthique dans ces environnements de recruter ces gens dans une étude avec une contrôle placebo. Par contre, dans les pays où les vaccins ne sont pas encore disponibles à toute la population, même les gens âgés, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on offre au moins 50% des gens dans notre étude, ils vont recevoir notre vaccin immédiatement. Et même dans la groupe de placebo, ils vont recevoir notre vaccin au moment qu'on peut démontrer que notre vaccin est efficace. Alors, même dans les pays où ils n'ont pas accès au vaccin, avec leur participation dans notre étude, ils ont une garantie de recevoir quelque chose, soit immédiatement ou peut-être dans 8-10 semaines.
D'accord. Ça, c'est très intéressant, puis c'est une discussion qui est extrêmement fascinante, je trouve, Dr. Ward, c'est que pour des raisons éthiques, vous ne pouvez pas offrir cette espèce de loterie dans un pays où il y a déjà le vaccin qui est administré, ce qu'on appelle le vaccin public, les campagnes publiques de vaccination. Donc, pouvez-vous nous nommer les 11 pays où la troisième phase de test de Medicago va avoir lieu?
Pour le moment, nous avons l'approbation de entrer dans la phase 3 au Canada, aux États-Unis, au Brésil et en Angleterre. Et nous sommes en négociation avec les autorités médicales dans 4 pays de l'Amérique centrale et sud et avec 3 pays en Europe. Mais probablement, c'est pas une bonne idée de les nommer pour le moment.
Ah, d'accord.
Parce qu'il n'y a pas de garantie.
Que ça se fasse. Est-ce qu'il y a, par exemple, des pays en Asie ou en Afrique où le médicament, le vaccin Medicago pourrait être testé dans la phase 3? Ou c'est pas envisagé dans les plans?
C'est pas envisagé à ce moment. C'est assez difficile pour une petite compagnie avec seulement 450 employés de dérouler D'accord. Une phase de 3 avec 30 000 personnes. Alors, nous avons sélectionné les régions du monde où on a une bonne réflexion de la population canadienne, par exemple.
D'accord, je comprends. Alors, donc, on prend le vaccin que vous êtes en train de développer, et là, vous venez de dire un chiffre magique, vous avez dit 30 000. Donc, il faut, pour que la phase 3 soit concluante, il faut qu'il y ait 30 000 personnes qui participent à vos études cliniques, c'est ça?
En réalité, toutes les phases 3, les études phase 3, ça veut dire les démonstrations de l'efficacité du vaccin, ils ont recruté environ 30 000 ou même plus dans certains cas. Mais toutes ces études sont axées sur les événements. Alors, il faut identifier un certain nombre de cas. Et pour notre étude, la chiffre magique, c'est environ 160 cas. Le moment que nous avons identifié 160 cas dans notre étude, c'est le moment qu'on va, disons, ouvrir l'étude pour déterminer qui a reçu le vaccin, qui a reçu le placebo. Et nous espérons que tous les cas vont se trouver dans la groupe placebo, ou presque tous. Il faut être réaliste. Et c'est avec ces chiffres qu'on peut dire, on peut estimer l'efficacité de notre vaccin. Et ces calculs démontrent que le vaccin est efficace, c'est à ce moment qu'on demande des autorités leur approbation de distribuer le vaccin dans les contextes urgents.
D'accord. Donc, on sent qu'il y a évidemment, le mot qu'on entend le plus souvent, évidemment, associé avec le vaccin, ce sont les mots course contre la montre à cause des variants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade-ci des études cliniques sur le vaccin Medicago, sur la capacité de ce vaccin-là à être efficace, par exemple, face aux variants brésiliens ou face aux variants britanniques? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mesurer à ce stade-ci ou c'est prématuré?
Bon, c'est prématuré pour l'efficacité, parce que nous venons de lancer notre étude. C'est clair que notre vaccin aura un défi, parce qu'on a déjà l'approbation de lancer l'étude au Brésil. Et en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il y a une circulation très active des variantes brésiliennes. Ce qu'on peut vous dire, et en plus en Europe maintenant, on a une circulation très vite de variantes qui est émergée en Angleterre, le B1.1.7. Ce qu'on peut vous dire, c'est que les études qui ont été faites par les autres démontrent que le titre d'anticorps neutralisant est très important pour c'est comme une prédiction de l'efficacité. Avec un taux de d'anticorps neutralisant très haut, c'est fort probable que les anticorps seront actifs contre les variantes. Dans notre cas, les titres d'anticorps sont parmi les plus hauts déjà rapportés.
Wow!
Alors, est optimiste,
oui.
Mais on n'a pas une démonstration jusqu'à date.
D'accord. Mais c'est bien, parce que c'est mieux ça que une nouvelle qui démontrerait un taux d'efficacité moindre. Donc, au moins, c'est encourageant. Dr. Ward, Medicago est pas une compagnie qui est inscrite à la bourse en tant que telle. Comment on peut, nous, si on croit dans ce vaccin-là, comment on peut participer ou comment on peut avoir une petite part de Medicago si on veut participer à cette avancée médicale-là?
Ben, nous sommes dans la phase de recrutement des sujets dans notre étude. Alors, la façon de nous aider directement, c'est de devenir volontaire.
Ah, c'est bon, oui.
De nos études. Alors, c'est dans quelques centres. Les gens, c'est une compagnie privée pour le moment. Alors, la seule façon d'investir, ce serait d'acheter des actions dans la compagnie, on peut dire le parent, qui est public, c'est Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Ils ont 66% des actions de la compagnie. Pour le moment, Medicago, c'est une compagnie privée, alors c'est la seule façon de le faire. Et c'est pas mal indirect.
D'accord. Mais quand même, on se doute que si Medicago nous annonce quelque part en juin, juillet, que le médicament est efficace et que on l'approuve de façon urgente, on peut imaginer quand même que les actions de Mitsubishi Pharma Corp vont peut-être augmenter, peut-être que vous...
C'est loin de mon expertise.
Oui, non, je comprends.
Il faut poser la question à quelqu'un avec une formation...
en finance. Oui, c'est ça. Je vais appeler mon courtier puis je vais lui poser la question. J'essayais juste de vous taquiner un petit peu, Dr. Ward. C'est juste que vous comprenez évidemment que vu qu'on a tellement entendu parler au cours des derniers mois de, on s'est tellement désolé du fait que justement tout le secteur du développement de vaccins, tout le secteur pharmaceutique avait été si peu développé au cours des ans au Canada que on a en fait on a une dépendance face aux vaccins qui sont développés à l'étranger. Donc, c'est plus une fierté, disons, qui tient du panier bleu, disons, de se dire, bon, ben, on va avoir un vaccin de chez nous qui va potentiellement être très efficace. Donc, on veut en avoir une petite partie. Dr. Ward, si tout se déroule comme vous le souhaitiez, comme vous l'espérez, on peut imaginer quel genre de date pour que, justement, il y a un vaccin québécois qui soit dans les bras des Québécois.
Oui, comme je vous ai expliqué, c'est l'essai clinique de phase 3. Il y a un but d'identifier certains événements, des cas. Alors, le taux d'attaque dans les pays sélectionnés pour notre étude vont déterminer la vitesse avec laquelle on peut identifier ces cas.
D'accord.
Maintenant, avec les taux d'attaque qu'on voit en Amérique centrale, ici au Canada et en Europe, on peut anticiper l'identification de ces 160 cas fin juin ou mi-juillet.
Bon, on va se donner ça comme objectif. Merci beaucoup, Dr. Ward. Je rappelle, Dr. Brian Ward, que vous êtes officier médical chez Medicago, professeur en maladies infectieuses à l'Université McGill. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. Je sais que, justement, dans cette course contre la montre, chaque minute compte. Donc, merci d'en avoir pris 15 dans votre journée pour venir parler aux auditeurs de Cube Radio. C'est extrêmement apprécié. Et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui pour cette émission de Cube Radio. Je veux remercier Jean-François Roy qui est toujours fidèle à la mise en onde, à la réalisation, William Boivin à la recherche. Ben moi, mon petit nom, c'est Sophie Durocher, puis j'ai bien hâte de vous retrouver demain.